de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Réforme de la coopération multilatérale est l'agenda principal, a affirmé la ministre indonésienne des Affaires étrangères. Investissement privé est la clé de la construction de l'IKN, a affirmé le président Joko Widodo. Le président a déclaré que la pépinière Mentawai était prête à verdir l'IKN. Le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales a déclaré que le gaz naturel devenait un pont vers la mise en œuvre des énergies renouvelables. Le président du MPRRI explore la coopération avec la Corée du Sud pour réaliser l'EBT. La République d'Indonésie signe un accord réglementant la conservation biologique en notre mer. La municipalité de Madiun fait la promotion du potentiel des MPMO auprès de la délégation kényane. Voici le journal complet. L'une des leçons importantes que l'Indonésie a tirées de la tenue du sommet de l'ASEAN et du sommet du G20 est que la réforme de la coopération multilatérale doit être l'agenda principal de la communauté internationale. C'est ce qu'a transmis la ministre des Affaires étrangères, Retno, aux participants de la réunion ministérielle du groupe sur la gouvernance mondiale 3IMM à New York aux États-Unis mercredi heure locale. Selon un communiqué du ministère indonésien des Affaires étrangères jeudi, Retno Marsudi a également souligné l'importance de renforcer la solidarité mutuelle car sans solidarité, les ODD ne seront pas atteints en 2030. C'est pourquoi, selon Retno Marsudi, il est important que tous les pays promeuvent la question de la solidarité sur diverses plateformes internationales et multilatérales. En outre, la ministre des Affaires étrangères, Retno, a déclaré que l'un des autres messages importants du 43e sommet de l'ASEAN et du sommet du G20 était que les pays du Sud avaient prouvé leur capacité à surmonter des situations difficiles et à combler leurs différends. Le président Joko Widodo a déclaré que l'investissement privé pour répondre à divers besoins d'équipement public est la clé du projet de développement de la capitale de l'archipel IKN. Le président a déclaré cela après avoir posé jeudi la première pierre de l'hôtel Nusantara à Penajam Pasir du Nord, Kalimantan Oriental, cité par Antara. Le président Joko Widodo a déclaré que les investisseurs privés commençaient à venir à IKN après l'achèvement du développement des infrastructures de base sous la forme d'autoroutes à péage et de l'aéroport, dont l'achèvement est prévu cette année. En plus de stimuler la fourniture d'infrastructures de base, le gouvernement facilite également les incitations aux super réductions fiscales, à savoir les incitations sous forme de réduction d'impôts pour les acteurs commerciaux et industriels qui mènent des activités de développement à l'IKN. Le gouvernement offre également des incitations fiscales sous la forme des congés fiscaux pour stimuler l'intérêt des investisseurs étrangers. Le président a ajouté que l'hôtel Nusantara, qui est construit à travers des investisseurs privés nationaux, est la preuve qu'IKN dispose d'un potentiel d'investissement très prometteur. La construction de la pépinière de Mentawir dans le Kalimantan oriental est presque achevée à 100% et prête à être utilisée pour verdir la capitale de l'archipel IKN. C'est ce qu'a déclaré jeudi le président indonésien Joko Widodo lors de sa visite à la pépinière Mentawir, Penajam Pasir du Nord, Kalimantan Oriental. On espère que des graines de la pépinière Mentawir pourront restaurer les forêts autour d'IKN afin que la région de la nouvelle capitale et ses environs reviennent à la forêt tropicale humide. Le président a expliqué que le lieu de plantation serait réglementé par le ministère de l'Environnement et des Forêts et par l'autorité IKN au IKN. Le président a souligné que la présence de la pépinière Mentawir montre la réalisation de l'engagement du gouvernement indonésien à améliorer l'environnement. Le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, ESDM, Arifin Tasrif, a déclaré que le gaz naturel serait un pont pour la mise en œuvre des énergies renouvelables en Indonésie. Arifin Tasrif a déclaré que le gouvernement encourage chaque année l'ajout de nouvelles zones d'exploitation pétrolière et gazière pour répondre aux besoins pétroliers et gaziers et sécuriser l'approvisionnement en énergie. Néanmoins, l'industrie pétrolière et gazière en amont doit mettre en œuvre des stratégies de réduction des émissions, y compris l'application de technologies d'énergie propre, telles que le captage et le stockage du carbone, l'utilisation du stockage et du captage de carbone, CCS, CCUS. En outre, en réponse à l'augmentation de la demande antérieure, le gouvernement poursuit activement l'expansion des infrastructures gazières afin de faciliter une intégration harmonieuse de l'offre et des demandes. Le président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien, MPRRI, Bambang Susatyo, a encouragé le gouvernement indonésien à explorer le potentiel de coopération avec la Corée du Sud dans la fourniture d'énergie nouvelle et renouvelable EBT nationale. Dans un communiqué officiel reçu jeudi à Jakarta, Bambang Susatyo a déclaré que la coopération pour réaliser l'EBT pourrait être explorée, à savoir le développement de l'énergie nucléaire et de l'énergie hydraulique. Il a affirmé cela lorsqu'il a visité la Société coréenne de l'énergie hydroélectrique et nucléaire, KHNP. Le président de MPRRI a expliqué que le gouvernement indonésien pourrait explorer la coopération avec la Corée du Sud dans le développement de l'énergie nucléaire et de l'énergie hydraulique via le KHNP. L'Indonésie possède des ressources en eau car elle possède de nombreuses rivières au débit rapide qui ont le potentiel de développer une centrale hydroélectrique de 75 000 MW. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, représentant le gouvernement indonésien, a signé l'accord BBNJ qui réglemente la conservation de la biodiversité en dehors de la juridiction nationale ou en notre mer. Le nom complet de l'accord est l'accord au titre de la CNUDM sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale. La signature a lieu dans le cadre d'une série d'activités de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis. Le premier jour où l'accord est ouvert à la signature, 70 pays ont signé l'accord BBNJ. C'est ce qu'a déclaré jeudi le ministère indonésien des Affaires étrangères. Il a été déclaré que l'Indonésie avait participé activement à la négociation de l'accord et avait constamment souligné l'importance d'une approche équilibrée des droits et obligations de chaque pays à l'égard des eaux internationales qui constituent le patrimoine commun de l'humanité. La municipalité de Madiun, Jawa East, a fait la promotion du potentiel d'un certain nombre de produits de micro, petite et moyenne entreprise, MPME, auprès de la délégation de l'État du Kenya, qui étudiait la planification familiale post-natale, KB, et le retard de croissance. Le maire de Madiun, Maïdi, a déclaré jeudi à Antara qu'un certain nombre de produits MPME introduits, entre autres, la nourriture typique de Madiun, le batik typique de Madiun, ainsi que divers produits artisanaux fabriqués par des artisans locaux et des MPME. La délégation du Kenya et du Bangladesh s'est rendue en Indonésie pour participer à une série d'activités de formation en santé, notamment sur la planification familiale et la reproduction à Madiun jusqu'au vendredi 22 septembre. Pendant son séjour dans la ville de Madiun, le groupe a visité plusieurs endroits, notamment l'hôpital régional de la ville de Madiun, le village de la planification familiale Sejahtera, le village Klegen et du parc Ngrowo Bening, le centre de santé Sukosari, la parc Bumi Semendung, le centre de la rue de Héro et plusieurs autres points. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Réforme du Conseil de sécurité de l'ONU ». Vous êtes avec moi Audrey. Chargé d'État des appels à réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies, ONU, réapparaissent lors de l'ouverture de la session de l'Assemblée générale de l'ONU mardi 19 septembre. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé la nécessité de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU pour refléter les réalités du monde d'aujourd'hui. Guterres a déclaré qu'il existe de nombreux intérêts et programmes concurrents concernant la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon lui, l'alternative et la réforme est non le statu quo. L'alternative à la réforme est une fragmentation accrue. Le choix est donc la réforme ou la division. Le chancelier allemand Olaf Scholz a également soutenu la réforme du CSNU lors du débat général de l'Assemblée générale de l'ONU à New York aux États-Unis. Scholz a déclaré mardi 19 septembre que l'Allemagne soutenait la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, CSNU, conformément aux conditions et aux défis mondiaux actuels. Selon Scholz, la composition actuelle du Conseil de sécurité est l'exemple le plus clair du fait que l'organisation ne représente pas la réalité d'un monde multipolaire. Il a déclaré que l'Afrique méritait une plus grande représentation, tout comme l'Asie et l'Amérique latine. Le Conseil de sécurité de l'ONU a été créé en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, et comprend 15 pays. 5 de ces pays étaient des membres permanents classés comme vainqueurs de la guerre, à savoir les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Chine et la Russie. Il dispose d'une plus grande autorité, notamment du droit de veto, qui leur permet d'empêcher ou d'annuler l'adoption des résolutions du Conseil de sécurité. Pendant ce temps, 10 autres pays sont membres tournants ou non permanents. Les membres non permanents ont une durée d'adhésion de 2 ans. La réforme du Conseil de sécurité de l'ONU est en débat qui dure depuis un certain temps. De nombreux pays soutiennent, voire encouragent les réformes, parmi lesquelles la Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré en juillet dernier que le Conseil de sécurité devait être réformé conformément aux réalités existantes. Selon lui, la domination des pays occidentaux dans cette instance doit être équilibrée. Lavrov a déclaré que Moscou s'efforcerait d'élargir le nombre de membres du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'assurer une plus grande représentation aux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Auparavant, le président turc Recep Tayyip Erdogan, lors de la 75e Assemblée générale des Nations unies en septembre 2020, avait déclaré qu'il était urgent de mettre en œuvre des réformes globales et importantes pour les Nations unies, à commencer par la restructuration du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon Erdogan, le sort de l'humanité ne peut être laissé à la merci d'un certain nombre de pays. La réforme du Conseil de sécurité de l'ONU est également un sujet de préoccupation pour le gouvernement indonésien. Le président Joko Widodo, dans son discours à l'ouverture du 60e anniversaire de la conférence Asie-Afrique à Jakarta en avril 2015, a même souligné la nécessité pour les pays asiatiques et africains de continuer à faire pression en faveur du processus de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. L'un des documents issus de la réunion, à savoir la déclaration sur la revigoration du nouveau partenariat stratégique Asie-Afrique, NAASP, contient également des références à l'importance d'augmenter le nombre de membres du Conseil de sécurité de l'ONU d'Asie et d'Afrique dans le cadre de l'ONU. Processus de réforme du Conseil de sécurité, compte tenu du développement des discussions dans les forums internationaux et régionaux. Il est important de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. Un changement pour le mieux, pour un monde pacifique et prospère. N'est-il pas un rêve partagé? Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voequiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants.
From Indonesia to the world.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 22 septembre et la journée de la police de la circulation Bayangkara. Chaque 22 septembre, l'Indonésie commémore la journée de la police de la circulation de Bayangkara. Cette commémoration est basée sur la création de la section de la circulation routière de la police indonésienne le 22 septembre 1955 par le décret du chef de la police nationale en 1955. Cette formation devait pour la première fois réguler la circulation routière sous la direction du chef de la police d'État. La police de la circulation est apparue pour la première fois à l'époque coloniale néerlandaise. À cette époque, les activités de circulation de véhicules motorisés ont commencé à émerger en Indonésie, de sorte que le gouvernement des Indes néerlandaises a commencé à ressentir le besoin de réglementer leur utilisation. Les premiers règlements ont été publiés pour la première fois le 11 novembre 1899 et sont entrés en vigueur le 1er janvier 1900. Le 22 septembre 2011 est la journée mondiale des rhinocéros. La journée mondiale du rhinocéros est célébrée chaque année le 22 septembre. La journée mondiale du rhinocéros a été célébrée pour la première fois en 2011 dans le but d'augmenter la conscience commune pour mettre fin à la pratique de la chasse et de conserver certaines espèces de rhinocéros en danger critique d'extinction. Depuis des années, les rhinocéros sont chassés pour leur corps et leur sang utilisés en médecine. Chaque jour, environ 3 rhinocéros sont tués et chassés pour leur corps. En raison du braconnage, les espèces de rhinocéros du monde entier sont menacées et presque éteintes. La Journée mondiale du rhinocéros est un moment pour toutes les parties de lutter contre le commerce de la corne de rhinocéros et de préserver ce grand mammifère. Le 22 septembre est la Journée internationale sans voiture. La Journée mondiale sans voiture est célébrée dans le monde entier le 22 septembre. Cette journée vise à encourager les automobilistes du monde entier à cesser d'utiliser des véhicules motorisés et à rechercher des alternatives plus respectueuses de l'environnement. En octobre 1994, une campagne structurée liée à la Journée sans voiture a été lancée dans un discours d'ouverture prononcé par Eric Breton à la conférence internationale de Ciudad sur les villes accessibles, un document sur la réduction de la dépendance à l'égard des véhicules a également été distribué lors de la conférence tenue à Tolède en Espagne. L'Indonésie célèbre également le 22 septembre la journée sans voiture. Plusieurs pays européens ont commencé plus tôt dans les années 1990 et l'Indonésie a organisé des activités de journée sans voiture en 2007. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Jika tak ada kamu menemani aku. Tak ada kamu,
aku mati, 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 mati jika engkau pergi.
Dengarlah kesayanganku, jangan tinggalkan aku. Tak mampu jika aku tanpamu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc Mon Indonésie et pour le titre... L'Indonésie a libéré sa première exportation d'huile de cuisson usagée vers les États-Unis. Le ministère de l'Industrie a distribué aux États-Unis 5 containers d'huile de cuisson usagée bien traçable d'un volume de 200 tonnes métriques sur la base du système d'information numérique, le système d'information sur les huiles de cuisson usagées au CIMIDIEL. Les autorisations d'exportation ont été effectuées de manière hybride sur 3 sites, à savoir le bureau du ministère de l'Industrie à Jakarta, l'entrepôt de CV Arta Metro Oil, Tangerang et bureau Veriflu à Houston, Texas, aux États-Unis, jeudi. Ce produit sera utilisé pour devenir le carburant respectueux de l'environnement au carburant vert, notamment du carburant d'aviation durable, SAF, ou du carburant d'aviation vert et de l'huile végétale hydrotraitée, HVO, ou du diesel vert. Cité par l'agence de presse Antara, 21 septembre, le directeur général de l'agro-industrie au ministère de l'Industrie, Poutou Djoli Ardika, a publié jeudi les exportations en ligne du siège du ministère de l'Industrie à Jakarta. À cette occasion, il a déclaré que la traçabilité elle-même est très populaire dans l'industrie des carburants verts et est devenue une exigence sur les marchés de l'Union européenne et des États-Unis. Selon lui, cette première exportation est la première étape pour utiliser la technologie et ouvrir la traçabilité des huiles de cuisson usagées. Pour exprimer le plein soutien du ministère de l'Industrie aux mesures prises par l'Association indonésienne des exportateurs d'huile de cuisson usagée, AMG, dans le développement d'une plateforme numérique pour le système d'information sur les huiles de cuisson usagées, CIMIGEL, afin d'accroître l'acceptation des produits d'huile de cuisson usagée dans le pays de destination des exportations, notamment aux États-Unis. Selon Poutou, le gouvernement espère que la mise en œuvre de CIMIGEL s'étendra également à plusieurs sociétés de collecte d'huile de cuisson usagée afin d'augmenter la valeur des huiles de cuisson usagées d'Indonésie sur la base des données de la plateforme numérique. Il espère également que CIMIGEL pourra devenir une icône pour la mise en œuvre d'une logistique avancée basée sur des plateformes numériques à l'échelle locale, régionale et mondiale. C'est le retard, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Fashion way, just like they do in old movie. When Romeo meet Juliet, when Harry met Sally, no emojis, and we don't need IG story. We just say what we wanna say to a love letter and poetry. I wanna sing a song that'll make you smile. I want to buy a flower just for you. So let me take your hand. We take a walk at night across the city until the morning sun. Even if the rain falls down, we're still dancing in the rain. Baby, let's fall in love like the old fashioned way. And we don't need IG story. We just say what we wanna say to a love letter and poetry. I wanna sing a song that make you smile. I want to buy a flower just for you. Take a walk at night across the city until the morning sun. Even if the rain falls down, we're still dancing in the rain.
just for you and me, like the old-fashioned way. Let's fall in love just for you and me, like the old-fashioned way.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel intitulé Musée islamique de Nusantara avec Maudry. Chers auditeurs, le 16 septembre dernier, le musée islamique Nusantara a été inauguré par le ministre du Tourisme et de l'Économie créative de la République d'Indonésie, Sandiaga Uno, à la mosquée Jami Lasem, district de Lasem, Rembang, Java Central. Sandiaga Uno a apprécié les parties impliquées dans la construction du musée islamique de Nusantara. Selon Sandiaga Uno, en plus d'être un espace de patrimoine historique islamique, ce musée est également une preuve de l'acculturation des habitants du district de Lasem qui vivent côte à côte en harmonie. La diversité de la communauté se compose d'ethnies javanaises, chinoises et arabes. La particularité du musée islamique de Nusantara réside dans la forme du bâtiment qui ressemble à un rumah gadang typique de Sumatra occidentale, auquel on donne une touche de maison traditionnelle javanaise. Ce qui est unique, c'est que ce musée a été construit dans le quartier de Chinatown. Chargé d'État, le musée islamique Nusantara lui-même se compose de trois étages. Le premier étage contient des archives et des objets historiques. Au deuxième étage se trouve une série historique complète avec des personnages importants allant de Wali Songo à la figure du quatrième président de la République d'Indonésie, Abdurrahman Wahid. Il y a aussi la biographie d'un religieux légendaire du Lasem Rembang, à savoir Mbah Sambu ou Sayyid Abdurrahman, décédé en 1671 après Jésus-Christ, et Mbah Bisri ou Kyai Haji Bisri Mustafa. Ensuite, au troisième étage, il y a 30 ornements de calligraphie de jouz, coran, sculptés sur du bois de teck, à la fois manuellement et à l'aide de machines. Chers amis, en vous rendant au musée islamique de Nusantara, vous pourrez voir d'anciens objets, des mobiliers de maison tels que des poteries, des théières et plusieurs manuscrits anciens en écriture arabe qui auraient été laissés par Mbah Sambu. L'équipement ménager a été retrouvé autour du complexe de la mosquée Jami qui était autrefois la maison de Mbah Sambu. L'ancienne moustaka où la pointe du toit de la mosquée Jami Lasem est également conservée dans ce musée. Une autre chose intéressante que vous pouvez voir dans ce musée est un Alcoran, géant fabriqué à partir de plaques de bois gravées avec des versets des 23 juz du Coran. Bon, cher Joïtar, c'est tout, le magazine culturel.
Sengaja tuk habiskan waktu tuk temani jiwaku jiwa yang selalu ada untukmu selalu kau yang berbeda untukku hanyalah dirimu di sini tetaplah engkau di sini temani diriku
Serge Ritar, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur. Et cette fois, je vais vous présenter l'exposition des archives musicales Ngak Ngik Ngok à Deg Deg Pla. Avec moi Audrey. Chers amis, ministère de l'éducation, de la culture, de la recherche et de la technologie de la République d'Indonésie, en collaboration avec la Fondation d'archives Irama Nusantara, a organisé une exposition d'archives musicales intitulée « De Ngak Ngik Ngok à Deg Deg Plas ». Cette exposition ouvre le samedi 16 septembre 2023 à 16h, heure locale, au Musée Kebangkitan Nasional, Jakarta. L'exposition durera un mois complet jusqu'au dimanche 15 octobre 2023. Le directeur du cinéma, de la musique et des médias, Ahmad Mahendra, a révélé qu'en plus de présenter des collections d'antiquités classiques, l'exposition d'archives de Ngak Ngik Ngok à Duk Duk Place est un moyen d'éduquer le public sur l'histoire du développement de la musique populaire en Indonésie. L'exposition présente le parcours de la musique populaire indonésienne d'avant 1960 à 1969. Ce matériel d'exposition est un développement du livre de Ngak Ngik Ngok à Duk Duk Place qui a été publié par Irama Nusantara en collaboration avec Bintang Press et Norma en 2021. L'assemblée du matériel d'exposition est présentée de manière contemporaine à travers des peintures murales, des images audiovisuelles et bien sûr des collections originales sous forme physique. L'exposition est divisée en trois zones, à savoir la zone qui présente le début du développement de l'industrie de la musique populaire indonésienne avant 1960. La deuxième zone qui présente le développement de l'industrie de la musique populaire sous le règne de l'ordre ancien, 1960-1965. Et la dernière zone qui contient le développement de l'industrie populaire indonésienne sous le régime du nouvel ordre, 1966-1969. Chers amis, à travers cette exposition, les visiteurs découvrent diverses collections, non seulement rares, mais aussi historiques. Celles-ci incluent des photos de musiciens de l'époque des Indes néerlandaises, des sorties musicales de l'un des premiers labels de Nusantara, Tio Tek Hong, 1905. Les informations sur la chanson Indonesia Raya qui a été enregistrée pour la première fois et des documents sur l'incendie de les disques vinyles des Beatles à Jakarta en 1965 en raison de l'interdiction de la musique occidentale par l'ancien ordre, Orde Lama. Un enregistrement du discours manifeste politique de la République d'Indonésie de Bung Karno en 1959, qui a finalement donné naissance au terme Ngak Ngik Ngok, peut également être vu dans cette exposition. Les visiteurs peuvent également visionner des films des années 1960. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
La Voix d'Indonésie revient à la tenue du Voice of Indonesia International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voix de l'Indonésie 2023 se trouve sous la forme d'un concours d'écriture sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, avec une longueur de 700 à 800 mots. Ariel 12 et les dossiers au courriel voiquiz2023@gmail.com. Concours de rédaction ouvert du 10 avril au 25 septembre 2023. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix d'Indonésie. Les gagnants sont annoncés le 27 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devez l'un des gagnants.
From Indonesia to the world.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans plus tard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons la chanson traditionnelle de Bangka Belitung intitulée La Berage avec Maudry. Sajoyitar, cette chanson créée par Sofwan AR raconte l'histoire de la tradition de manger ensemble qui est une caractéristique du peuple Belitung. Les paroles de la Berage sont une invitation à manger ensemble. La nourriture est disposée sur un grand plateau rond et les gens s'assoient sur le lesehan, sur une natte ou des feuilles de pandan pour savourer la nourriture. Berage signifie également une célébration pour profiter de l'abondance, de la bonne fortune. Avec l'âge, la fatigue disparaît et laisse place à la joie. Bon, chers auditeurs, voici une chanson de Bangka Belitung intitulée La Berage. Bonne écoute.
Cucu ngumpul semua duduk beramai-ramai ngadap rejeki sama-sama nak segembira sekeluarga layakkan letih tak terasa berage berage
cucu ngumpul semua. Kudo beramai-ramai ngadap rejeki sama-sama. Rasa gembira sekeluarga payahkan letih tak terasa. Kita berage ayo kita berage.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.